Je vous propose de lire dans le livre des Actes l'arrestation, le discours et l'exécution d'Étienne. Donc on commence dans le chapitre 6 des Actes. Et on peut commencer au verset 8. Je vais lire l'intégralité, c'est peut-être un petit peu long, mais après je serai normalement pas trop long.
Parle un peu plus fort.
Oui, acte 6, verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelés synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Et ils présentèrent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de prononcer des blasphèmes contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et le grand prêtre dit: est-ce exact? Étienne répondit: mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Il lui a dit: quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il a alors quitté le pays des Chaldéens et allé habiter à Charan. Et de là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Et voici ce que Dieu a dit: ses descendants séjourneront dans un pays étranger, on les réduira en esclavage, on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu, et après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis, Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham a eu pour fils Isaac, la circoncis le huitième jour, Isaac a fait de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Et les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais Dieu était avec lui, il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il a alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan, la détresse était grande, nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte, il a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem, déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Amor à Sichem. Et le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, le peuple a grandi, augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple. Il a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. Et à cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Et Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu accord de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Et le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient à essayer de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Et à cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. Je vais quand même avancer un petit peu. Verset 35, c'est Moïse qui l'avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson et c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Et c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu l'obéir, mais l'ont repoussé dans leur cœur. Ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Et à ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Puis un peu plus loin, verset 46, il parlait par les tabernacles. Dieu a trouvé grâce devant Dieu, il a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur? Ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Et en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers les cieux et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Et les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. D'abord, c'est un passage, je trouve, pourquoi parler de ce passage. Une raison, c'est que on va voir comment on a vu l'évangile selon Luc, on a vu tout ce que Jésus a fait jusqu'à sa mort, on a vu aussi comment il a petit à petit formé ses disciples et comment... On a parlé dans ses adieux à ses disciples, il les préparait, il les envoyait. Et il semble que là, dans ce livre, qui est la continuité, que Luc a écrit aussi, on voit aussi un peu tout cela, ce qui continue et ce qui se déploie grâce et par la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est une première raison. Une raison peut-être plus personnelle, c'est que Étienne, pour moi, c'est un des personnages de la Bible à qui j'aimerais le plus ressembler. C'est vraiment chaque fois que c'est pas très long ce qui est dit sur lui, mais chaque fois que je lis ce qui est sur lui, je me dis j'aimerais avoir davantage la piété d'Étienne. Et en même temps, quand on relit ce passage, on se dit Étienne est formidable, c'est extraordinaire. Et un peu comme dans toute la Bible, je pense que quand on regarde, on se dit ah oui, Étienne est extraordinaire parce que Dieu est extraordinaire. Et donc voilà, c'est un peu quelques pensées que je vous propose sur ce passage. Je suis plusieurs fils. D'abord, voir dans ce texte l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples et comment se déploie le plan de salut, ce sera un premier fil. Un deuxième, ce sera l'exemple d'Étienne, de nous dire. Un troisième, ce sera comment dans ce passage, et notamment dans le discours d'Étienne, on relit, on revoit tous les événements de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. Quelle perspective en donne Étienne. Et à travers ça, à travers cette relecture, le dernier fil, c'est de voir comment ce texte, en fait, à travers la relecture de ce qui se passe dans l'Ancien Testament, mais aussi à travers de la réception de cela par les hommes, comment ce texte nous révèle à la fois la permanence de Dieu, la permanence de l'homme aussi, et le plan de salut qui permet de concilier le fait qu'on a un Dieu en permanence bon et un homme en permanence réfractaire, et Dieu a permis de dépasser cela. Voilà, donc c'est un peu les différents fils que je vous propose de suivre à travers ce texte. Et donc le premier, donc c'est plutôt dans la lignée un peu de ce qu'on avait vu, notamment qu'on avait vu dans Luc et aussi présent dans Jean, c'est comment finalement ce qui est en train de se passer là au début des Actes, c'est l'accomplissement, le déploiement de ce que Jésus avait annoncé à ses disciples et le déploiement du plan de salut. Et notamment parce que ses disciples étaient auprès de Jésus, ils ont maintenant pleinement compris ce qu'il avait fait, et ils ont cette envie de l'annoncer. C'est aussi la mission que Jésus leur donne. Et en même temps, Dieu leur a donné cette mission, et il leur a aussi annoncé qu'il y aura de l'opposition, et il leur a aussi annoncé qu'il les accompagnerait dans cette opposition. Donc on peut lire peut-être deux passages qui parlent de cela, que quand Jésus a anticipé cela. Un dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, au verset 7. lire du verset 7 au verset 11. « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc cette idée que voilà, je m'en vais, mais je vous enverrai. Ce défenseur, on sait que c'est l'Esprit Saint dont il est, le Saint-Esprit dont il est, parlé ici. Et puis encore plus direct, dans l'Évangile selon Luc, justement, chapitre 21, et vraiment on pense forcément à ce passage, il me semble, quand on lit ce qui arrive à Étienne. Luc 21, verset 12. « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Et vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. » Luc 21, verset 12 à 19. Donc, vraiment là, ici, et puis on va le voir tout à l'heure, mais là, ce qu'on voit là, c'est le déploiement de ce qui était annoncé, c'est-à-dire à la fois ce plan de salut qui est annoncé, et puis cette opposition, et la façon dont, Dieu va accompagner les disciples, et dont il va, on va le revoir à travers l'exemple d'Étienne, à travers sa ressemblance à Jésus, mais vraiment, c'est dans cette lignée-là, on sait qu'au début des Actes, c'est annoncé, c'est d'abord annoncé aux Juifs qui le refusent, et puis ça va juste après s'élargir encore, hein, et puis on a évidemment Saul qui est là, qui deviendra Paul, qui écoute, qui pensait qu'il va ouvrir aussi ce message-là. Mais voyez comment cette annonce de Jésus, sans doute qu'Étienne n'était pas auprès de Jésus à ce moment-là, mais tout ça, ses paroles ont circulé, et peut-être qu'il a eu ces paroles vraiment en lui, au moment où il a vécu tout cela. Donc voilà comment finalement il y a un accomplissement déjà de ce que Jésus avait dit, et puis l'opposition, la façon dont les disciples sont accompagnés, et puis la façon dont ce salut va déborder au-delà du peuple juif qui en grande partie le refuse, en partie aussi l'accepte, hein, on l'a vu au début du livre, mais voilà comment le royaume avance, et on le voit à travers cette histoire. Alors du coup on le voit incarné en Étienne, et donc mon deuxième film un peu c'est cet exemple d'Étienne, peut-être deux axes principaux pour cette ressemblance. Le premier, c'est un peu voir comment Étienne s'engage, et puis dans un deuxième point, comment il est sa ressemblance avec Jésus, en fait, dans différents points. Sur son engagement, donc on l'a pas lu, mais j'y reviens un tout petit peu, un peu avant, hein, la première fois, c'est au chapitre 6 dans les Actes. Je vais le lire juste pour voir comment Étienne arrive aussi. Donc il y a cette dissension, il y a ces tensions entre notamment les chrétiens d'origine juive et les hellénistes, hein. Et puis donc les 12 convoquent l'ensemble des disciples et dire, c'est au verset 2 du chapitre 6, « Convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Et quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Et cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, pourquoi, et d'autres. Et puis ils les présentèrent aux apôtres, ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Et puis donc la suite, Étienne plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Donc, c'est connu, mais c'est quand même important de se rappeler ce que je trouve très marquant chez Étienne, et qui est quelque chose que, voilà, pour nous, c'est un peu la complétude de son engagement. C'est-à-dire, Étienne, au départ, il est reconnu pour une tâche très concrète, très matérielle, très importante aussi, parce qu'il fallait assurer cette unité de l'Église. Et on voit qu'il est candidat à rien, il ne revendique rien, mais au moment où il y a ce besoin-là, eh bien, au moment où il y a un besoin collectif, tout le monde dit « oui, c'est vrai, il faut faire ça », et puis ben, il se tourne vers Étienne, qui est plein de foi, d'Esprit Saint. Et du coup, je trouve que C'est beau de voir comment, dans le début de cette église, il y a vraiment ce côté très mêlé entre des services très concrets, très pratiques, et vraiment la dimension spirituelle de piété qui était là. Voilà, il n'y a pas différentes dimensions ou différentes divisions de services. Il est choisi à ce service très concret, très matériel, parce qu'il est plein de foi et d'esprit. Et après, du coup, il va aussi annoncer la parole de Dieu. Donc, il est très complet dans son engagement. Il ne divise pas entre des sphères. Et puis, il revendique rien, mais tout le monde à ses côtés ressent cette foi, ressent cet esprit qui est en lui, qui l'anime. Et du coup, voilà, je trouve que c'est. Quand je disais quelqu'un qui fait envie, c'est pour ça. Et puis, par la suite, il a ce courage. Donc, cette foi et cette puissance, vous avez vu, il était plein de foi et d'esprit. Cet esprit, c'est une puissance. Au verset 8, on retrouve cette dimension, mais avec l'accent sur la puissance. Il accomplit des prodiges, des grands signes miraculeux parmi le peuple. Et donc là, c'est miracle. Mais aussi, il s'appuie vraiment sur... C'est pas seulement faire des miracles et des prodiges un peu en show-off, quoi. Quand il discute avec Jésus, ben il a vraiment cette parole, c'est des paroles de Jésus, la compréhension de la loi qu'avait donné Jésus, il est imprégné de ça, et personne ne peut résister à la façon dont il convainc, dont il parle, dont il parle. Donc vraiment on sent cette sagesse, donc on voit voilà, sagesse spirituelle, sagesse matérielle, sagesse relationnelle, parce qu'il était reconnu. Enfin, on voit la façon dont Étienne, finalement, par sa présence avec Dieu, finalement, les fruits sont partout, en fait, sont dans toutes ces dimensions-là. Et puis, évidemment, après, c'est son courage, parce que dans ce discours-là, il y a à la fois beaucoup de sagesse, il a compris tout ce que... Vous savez, dans l'épisode avec les disciples d'Emmaüs, où Jésus prend les disciples, il dit « Attendez, je vais vous expliquer », il leur explique tout ça. Là, on a l'impression que Étienne, il a été là, quoi. Il a compris ça, et du coup, il se tourne, il dit « Attendez, je vais vous expliquer, en fait. » La loi, vos coutumes, vos patriarches, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, sous un angle, on le verra après, qui est une condamnation, mais qui avant est aussi une proclamation, en fait, du témoignage de Dieu. Et il le fait évidemment avec immensément de courage, hein, puisqu'il a bien conscience des risques qu'il prend. Et il est d'abord arrêté, et ensuite, étant arrêté et étant là, il a ce discours-là. Donc, c'est vraiment ce courage aussi qui est remarquable. Et du coup, c'est un peu le deuxième point, c'est comment Étienne, dans ce qu'il est un chrétien, un petit Christ, quelqu'un qui ressemble à Jésus. Donc il y a différentes choses. Il y a d'abord dans sa conduite, sa conduite ou dans ses mots, hein, parce que vous savez sans doute, je vais relire ce moment en fait où... le moment qui bascule là quand il est arrêté, verset 9, il ne pouvait pas résister à la sagesse, à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent les hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse, notre Dieu. Donc soudoyer, corrompre, et pour présenter, verset 13, des faux témoins. Okay. Donc là vraiment on pense à Jésus, Matthieu 26, verset 59. Les chefs des prêtres, les anciens, tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Donc en fait, Étienne, il était irréprochable dans sa conduite. Ils n'ont rien pu trouver à lui reprocher. Donc ils sont obligés de corrompre des gens, d'amener des faux témoins. Donc il est, de ce point de vue-là, un exemple de Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé la place à quelque chose qui aurait pu discréditer son message, donc de ce point de vue-là. Et puis, il est aussi semblable à Jésus ou proche de Jésus dans ce qu'il anime. Et ça, quand même, on le voit notamment, je trouve, assez fortement, donc au verset 15. Hein, c'est au début, c'est quand même. Ça, en relisant, ça m'a quand même beaucoup frappé. Parce qu'on a souvent la fin quand il regarde le ciel, mais avant même qu'il commence, au verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Et c'est incroyable. Il y a des versets où vous allez transformer de gloire en gloire, à l'image de Christ, de gloire en gloire en rayonnement. Mais on voit aussi son visage était comme celui d'un ange. Un peu plus loin, il dira la loi vous a été donnée par les anges. Les anges étaient des émissaires de Dieu. Et donc on voit que en disant cela, je ne fais pas l'analogie directe, mais Étienne apparaît aussi comme tel, dans cette lignée-là, en fait. Ils le voient, ils disent, On peut aussi penser à Moïse, dont le visage rayonnait tellement quand il était à table qu'il ne pouvait pas le regarder, qu'il était irregardable. Vous voyez, tous ces éléments-là, Étienne s'inscrit dans cette lignée-là d'être un intermédiaire tellement proche de Dieu, tellement empli de ça, que ça se voit, on ne sait pas exactement comment, mais ça se reflète ainsi jusque dans son apparence. Et puis, la ressemblance à Jésus, évidemment, après, et j'ai commencé un peu à en dire quelque chose, elle se manifeste de manière très très forte dans l'opposition et dans le type d'accusation qui vont lui être faits. On a lu dans le passé des Jacques, il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ses paroles. Ça, c'est des choses qu'on voyait aussi avec Jésus. Par exemple, en Matthieu 22, 46, aucun ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Donc on retrouve, il y a d'autres passages sans doute. Donc j'ai lu déjà cet aspect des faux témoins, Actes 6, 11, qui fait par exemple un parallèle à Matthieu 26. Mais dans Matthieu 26, d'ailleurs, si on pousse encore un petit peu, ça va vraiment là, c'est que on voit qu'ils aient. Alors, il manque aussi un peu d'originalité, mais vous me direz, c'est peut-être parce que c'était les points sur lesquels ils pensaient pouvoir s'appuyer. Mais c'est un peu les mêmes accusations, parce que un peu plus loin, si je continue dans Matthieu 26, c'était enfin, il en vint deux faux témoins qui dirent celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Et vous voyez que auprès d'Étienne, dans le verset 14 là, de notre passage, du chapitre 6, eh bien, ils vont retrouver ces accusations qu'ils ont faites à Jésus. Il est dans la lignée de Jésus parce que dans les accusations qu'on lui fait, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Donc il est vraiment tellement proche que même au point que les fausses accusations sont les mêmes contre lui que celles qu'ont été contre Jésus. Et puis évidemment, de manière très frappante, très 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 touchante aussi, eh bien il va être dans la ressemblance de Jésus jusque dans sa mort, dans cette mise à mort qui est tellement tellement frappante et quand je relis cette expression. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient les dents contre lui. Et je trouve ça m'a fait penser au peuple qui crie encore plus fort pour Barabbas quand Pilate veut relâcher Jésus. Cette rage, pas seulement cette opposition, mais cette rage qui est contre Étienne ici parce qu'elle est contre Dieu en fait. Et donc il est dans la ressemblance à Jésus jusque dans cette opposition qui déclenche jusqu'à la mort. Et puis bien sûr dans cette parole incroyable de pardon du verset 60, Seigneur ne les charge pas de ce péché. Seigneur pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font avec Jésus sur la croix. Donc il est tellement dans la ressemblance de Jésus. Donc on voit que Jésus n'est plus là, mais Jésus a envoyé ses disciples, et ses disciples, ils lui ressemblent. Et il lui ressemble aussi dans l'opposition qu'il déclenche, mais il lui ressemble aussi dans le témoignage qu'ils font, et puis dans la vie qu'ils vont propager. Et donc, là, c'est vraiment, quand on lit plutôt à travers ce que vit Étienne et ce qu'est Étienne, mais ce passage il est aussi marqué par ce grand discours, ce long discours que fait Étienne, et où on se dit c'est un peu une histoire de juifs tout ça, on peut régler leur compte là, on était passé dans le Nouveau Testament et puis on se refait tout l'Ancien Testament là. Et donc peut-être passer un petit peu de temps pour dire ce passage, ce discours d'Étienne, inspiré par Dieu, parce qu'on voit comment l'Esprit était présent en lui, eh bien, nous invite peut-être à une sorte de relecture, ou en tout cas à une perspective qui est tracée sur ces événements de l'ancienne alliance du peuple. Et à travers cette perspective, et ce sera le dernier point, comment Étienne nous rappelle ce qu'est Dieu et comment aussi nous rappelle ce qu'est l'homme face à Dieu. Et donc finalement, ce qui est assez frappant, je vais aller peut-être assez vite, mais la ligne générale, il me semble, c'est comment Étienne leur montre que finalement, si j'essaye de résumer, c'est de dire que tout ce qui est arrivé au peuple, il me semble, Étienne nous dit, c'est une série de révélations de Dieu et de délivrance de Dieu. Dieu est là en révélation, Dieu est là en délivrance, auquel fait face une série de refus de l'homme de reconnaître la seigneurie de Dieu. Et donc le cœur de tout ce qui se passe, le cœur de tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est quelle est la réponse ou la non-réponse à Dieu en fait. Et pas des lieux, des coutumes, des personnages. Et finalement, Étienne leur dit, mais tout ça, vous vous accrochez à tout ça, vous dites, mais tout ça en fait, qu'est-ce que c'est? Tout ça, fondamentalement, c'est Dieu qui se révèle, Dieu qui vient vous délivrer. Et est-ce que vous l'acceptez ou non? Est-ce que vous l'acceptez comme venant vraiment de Dieu, ou est-ce que finalement vous attachez à des lieux, à des coutumes, à des personnages? Et du coup, voilà, on voit ça un peu tout le long. Pour reprendre, mais vous voyez que ça part d'Abraham avec, voilà, ça commence par quoi? Parce que ça part le Dieu de gloire qui apparaît à notre ancêtre Abraham. Dieu qui promet, on va revenir sur ce que Dieu fait, voilà, mais Dieu promet, et puis en face, donc, y a cette alliance avec Abraham, ses patriarches, et puis au verset 9, voilà, les patriarches qui sont jaloux de Joseph et qui le vendent, donc quelque part qui le rejettent, voilà. Mais Dieu qui est avec lui et qui le délivre, la famine, Dieu qui vient les chercher, la difficulté pour revenir, hein, il rappelle, voilà, c'est première fois, deuxième fois, la difficulté avant que finalement tout soit réuni en Égypte. Et puis le temps de la promesse approche, et puis il y a ce roi qui s'en prend au peuple, et Dieu le voit, Dieu est attentif, Dieu met Moïse ici, et donc nouvelle délivrance, et qu'eux refusent encore en refusant Moïse, hein, quitte à établir chef et juge sur nous. Verset 35, c'est assez clé, je pense, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant quitte à établir chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. Et donc ça, c'est un peu la suite. Et puis vous voyez, verset 38, il y a les oracles de vie transmis par Moïse, et juste derrière, ils n'ont pas voulu l'obéir, ils l'ont repoussé. Et puis il y a l'habitation de Dieu qui est parmi les hommes, mais cette habitation de Dieu, Étienne dit, mais cette habitation de Dieu, c'est pas juste une maison, c'est pas juste des briques, c'est pas juste quelque chose, rien ne pouvait contenir cela. Ce qui était important, c'était Dieu qui habitait avec vous et auquel vous opposez. Et donc du coup, finalement, on a une espèce de résumé extrêmement synthétique, mais qui met le peuple face à ça, face à l'idée de dire, ben, regardez, vous avez en fait Dieu s'est constamment révélé pour vous délivrer, et on va voir un peu plus précisément comment il le fait, et vous finalement, le cœur de tout ça, c'est est-ce que vous avez répondu ou pas à ça, et en l'occurrence, comment vous n'avez pas répondu à ça. Et du coup, à travers ça, finalement, et c'est en ça que l'Ancien Testament n'est pas quelque chose à part complètement, et puis là on est passé dans une nouvelle ère, en fait, à travers la façon dont Étienne repeint un petit peu, il donne cette perspective dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a la permanence de Dieu et la permanence de l'homme. La permanence de Dieu, d'abord, on le voit vraiment dans toute cette histoire que Étienne raconte. Donc, faut avoir en tête qu'en fait, il l'accuse de blasphémer tout ça. Donc, en fait, Étienne leur montre qu'il connaît extrêmement bien, qu'il respecte énormément, et par contre, il leur change un peu le regard, il les décentre. Et donc, il leur montre ce qu'est Dieu. Donc, on voit que Dieu se révèle. On l'a dit, cette grande révélation de gloire. On voit que Dieu est attentif quand le peuple en Égypte est maltraité. Dieu est là. On voit que Dieu est un Dieu qui promet. Il a promis de lui en donner la possession, et puis ensuite il lui a donné. On voit aussi comment Dieu, en fait, tout au long, établit des intermédiaires, des prophètes, fait passer des messages. Ces frères comprendraient à propos de Moïse que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, mais ils ne l'ont pas compris. Donc Dieu a pris soin comme ça de venir chercher, de dire, de redire, de dire parfois de manière positive, parfois de manière très négative à travers les prophètes, mais voilà, à chaque fois il a été là pour passer ce message-là. Et puis tout ce que Dieu a pointé comme message, tout ce que Dieu a donné comme message, ça pointait vers la solution ultime, vers Jésus. Et ça, je trouve que je relis le verset 52 du chapitre 7 qui est assez intéressant pour ça. Donc, Étienne parle des prophètes, donc il parle du fait qu'il les persécute, mais voyez comment il présente les prophètes. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Voilà, donc vraiment, il leur dit, mais en fait, tous ces prophètes-là, qu'est-ce que c'était? C'était ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, le seul juste. Il n'y en a qu'un. Ces prophètes, ils étaient des messagers, donc regardez pas ces gens-là, regardez le juste, celui qui allait venir. Et donc voilà comment Dieu, finalement, à travers toute l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, a fait converger les choses vers la venue du juste, celui qui nous a donné notre salut. Donc voilà ce qu'est Dieu à travers tout l'Ancien Testament, voilà un peu ce qu'essaye de leur dire Étienne. Et en face de ça, dans ce refus, et ça c'est la permanence de Dieu que ça révèle, et en face de ça, on a la permanence de l'homme aussi. Et on a la permanence de l'homme, je trouve, dans deux choses qui se rapprochent évidemment, hein, mais l'une étant un peu la conséquence de l'autre. Mais la première, je trouve, c'est on voit à travers le récit que fait Étienne, mais aussi à travers la façon dont ce récit est reçu par ceux qui l'écoutent, on voit le risque de la religiosité, en fait, de comment nous, chacun de nous, on peut finalement perdre Dieu pour s'attacher à des coutumes, à des choses, et c'est quand même extrêmement fort. Et donc on voit bien que ceux qui l'écoutent là sont omnibulés en fait par les éléments un peu statutaires de leur croyance, quoi. Il y a le lieu, il y a les personnages, il y a les coutumes, il y a la loi, il y a toutes ces choses-là qui sont posées, c'est un peu leur statut. Et en fait, Étienne vient les bousculer là-dedans. Pourquoi ? Il vient les bousculer en disant, mais en fait, c'est Dieu qui est au centre de ces choses, de toutes ces choses. Il leur dit, oui, il y a la loi, mais Dieu avait donné à Abraham l'alliance de la circoncision qui était là avant la loi. Donc il y avait déjà cette volonté de Dieu d'être en alliance. Moïse, oui, magnifique Moïse. La façon dont Étienne en parle, c'est très beau. Mais il leur dit, mais c'est Dieu qui a décidé d'envoyer Moïse. Et puis Moïse, oui, il vous a donné la loi, mais qui lui a... En fait, il les a reçus. Il y a un petit verset, il les a reçus, les oracles de la loi. C'est Dieu qui a envoyé la loi. Le temple, mais Dieu était présent, autrement, il était déjà là. Et puis c'est lui qui a permis, il a toujours permis qu'il y ait un temple. Et puis de toute façon, mais il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Et d'ailleurs, c'était déjà dit par les prophètes. Donc à chaque fois, en fait, Étienne va les chercher en disant, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas l'artisan de ça, vous n'êtes pas ceux qui ont construit ça, vous n'êtes pas au contrôle de ça. En fait. Et donc à chaque fois il vient les chercher comme ça en disant, ben voilà, vous oubliez ça, et puis inversement, à quoi ça conduit? Ben, ça conduit à des dérives en fait à chaque fois. Et donc auprès de Moïse, ben, ils ne comprennent pas la délivrance, ils rejettent Moïse. En tout cas au début, ils ne veulent pas qu'il soit leur chef et juge. Et puis après, quand ils sont libérés, ils ne veulent pas lui obéir après la libération, et même verset 39, ils se tournent vers l'Égypte, vers le monde, quoi, de dire, ben, on était mieux avant. Et puis il y a l'idolâtrie. Ça, on l'a un peu moins lu, mais au verset 41, enfin si, le veau d'or, hein, il leur rappelle le veau d'or. Donc il leur montre aussi, dans la permanence de l'homme, chaque fois qu'on oublie ça, vers quoi on va, ben, on va vers le fait de refuser que quelqu'un soit chef et juge de nous-mêmes. On va vers des faux dieux parce qu'ils sont plus pratiques que le vrai Dieu. Et puis finalement, on rejette ou on rate des délivrances. Parce que finalement on s'est attaché aux mauvaises choses et du coup donc ça il leur dit voilà, il leur dit de manière positive en essayant de les recentrer envers Dieu, ensuite il condamne les dérives à travers les dérives du peuple et puis après ça c'est de plus en plus explicite et direct et versets 51 à 53 là il résume cela en termes extrêmement durs. On va relire ça, un homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Et donc, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez maintenant fait arrêter, et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, et qui ne l'avez pas gardée. Incirconcis de cœur et d'oreille, donc la circoncision, c'était le signe de ce qui était consacré à Dieu, ce qu'on tournait vers Dieu. Il dit, ben voilà, votre cœur et vos oreilles, ils ne sont pas. Peut-être que vos paroles, peut-être que des actes extérieurs, ils sont, mais votre cœur et vos oreilles, ils ne sont pas. Et bien sûr que ça, à ce moment-là, c'est un jugement sur le peuple d'Israël dans son ensemble, qui va être fait. Mais cette religiosité, n'y a pas que les Juifs qui savent le faire. On peut tous faire ça. Et donc, voilà, ce que où est votre cœur, où sont vos oreilles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi frappé. Et je pense que donc Étienne en est le versant positif. Lui, il est vraiment circoncis de cœur et d'oreille, on voit, mais inversement, ça, c'est des choses qui, évidemment, on peut, y compris en ayant vraiment cru, mais après se perdre un petit peu. Et en tout cas, voilà, ça m'a interpellé aussi. Et deux expressions du coup qui m'ont frappé pour finir là-dessus, c'est il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. C'est verset 38. Hein. Voilà. Et puis, deuxième expression, un peu plus loin, verset 53, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Ouais, il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre et vous avez reçu la loi, vous n'avez pas gardée. Je trouve ça intéressant parce que comment Étienne appelle la loi, il dit c'est des oracles de vie. Donc c'est ouais, quelque chose qui doit être vivant, qui doit être. Et finalement, ils en ont fait quelque chose de fermé, de défensif, un peu d'excluant aussi. Et ça, voilà, ça peut aussi me parler sur ce que je me rappelle que la Bible, l'Évangile, ce que j'ai reçu de Dieu est un oracle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire. Et puis eux, vous n'avez pas gardé, c'est presque paradoxal, parce qu'eux, je pense qu'ils étaient vraiment là-dedans pour dire ah non, mais non, on garde. On est là, bam, on garde la loi. Mais en fait, garder la loi, c'était pas ce cloîtrer autour de la loi, c'était pas la momifier comme un ensemble de commandements, c'était de se dire c'est un oracle de vie, et donc ça doit me mener à lui. Et donc vous l'avez pas gardé. Parce que finalement, cette vie, elle a un peu disparu. Donc, du coup, la conséquence de ça, c'est la dureté, c'est le refus qui va persister chez eux. Là, si je reviens à ceux qui l'entendent, hein, ils vont d'abord refuser de reconnaître la sagesse d'Étienne, premièrement. C'est une gradation, hein, ils refusent de reconnaître. Bon, ils auraient pu s'en tenir là en disant bon, on veut plus t'écouter. Mais là, il dit non, c'est pas possible en fait. Donc, on va faire des faux témoins. Et donc, il l'amène au Sanhédrin. Et là, Étienne leur fait ce discours incroyable. Et là, il refuse d'être pris par le message d'Étienne. Et en fait, on a des. Vous voyez que certaines des paroles d'Étienne sont assez proches de celles de Pierre. Hein. Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Pierre, au début du chapitre des Actes, aussi à ça, hein, vous avez mis à mort le prince de vie. On est très proche. Et au début des Actes, il y en a qui vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont avoir le cœur transpercé. Et eux, ils ont le cœur plein de rage. Vous voyez ? Donc en fait, Dieu met devant eux deux discours, deux chances, encore deux opportunités en fait, de revenir. Et on voit que là, eux, petit à petit, voilà, ils s'enfoncent là-dedans. Et puis, du coup, finalement, et là encore, de manière à la fois terrible et paradoxale, ils vont en fait confirmer le verdict d'Étienne en le mettant à mort. Étienne leur dit, vous êtes comme vos ancêtres qui ont mis à mort les prophètes. Il dit, ah bon, on va le mettre à mort. Et comment ils sont pris dans quelque chose où en fait et jusqu'au prophète suprême Jésus et maintenant et c'est d'ailleurs c'est intéressant de voir que ils ont mis à mort Jésus et c'est au moment où Étienne va en appeler au Fils de l'homme qu'il bascule définitivement, c'est plus possible parce que finalement le cœur de l'opposition c'était Jésus en fait, c'était de pouvoir l'accepter ou le refuser. Et donc vraiment on a la permanence de Dieu dans ce qu'il offre comme message de salut. On a la permanence de l'homme dans la manière dont il s'oppose jusqu'à la rage. Et du coup, jusqu'à la... qu'est-ce qu'il y a entre ses mains ? C'est faire mourir, en fait. On voit un maximum de ce qu'on peut faire pour refuser, parce que c'était reconnaître ou s'opposer, en fait. Et du coup, et je termine là-dessus, ce qui est... on a la permanence de Dieu et la permanence de l'homme, et ça pourrait apparaître... tragique, et c'est tragique, mais en même temps, dans ce passage, comme dans toute la Bible, on a aussi la permanence de la victoire de Dieu, et de la façon dont Dieu surmonte le mal par le bien. Et ça, finalement, on le voit de différentes façons dans ce passage. On le voit au niveau le plus global, puisque juste après, au chapitre 8, une grande persécution éclate, à la suite un peu, enfin, voilà, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et on sait que là, l'exécution d'Étienne, elle marque l'entrée dans cette persécution qui va faire que les apôtres partent et donc le message qui se répand. C'est une première façon dont Dieu répond au mal par le bien au niveau global. Si on est au niveau le plus micro possible et un peu à côté, c'est quand même très, très marquant que cet épisode, c'est celui qui fait apparaître Saul, qui est là, qui approuve l'exécution d'Étienne, au milieu chapitre 1. On ne sait pas exactement quel rôle a joué ce mais on sait que Paul parlera de ces moments où il a mis à mort, etc. Et en fait, vous voyez que voilà, il y a eu sans doute certainement une des graines qui a été semée là chez Saul, qui deviendra Paul, et qui fera là aussi se répandre. Ouais, notre façon dont Dieu surmonte le bien par le mal. Mais alors, il y a aussi pour Étienne, dans la façon dont Dieu surmonte le mal par le bien. Et tu disais tout à l'heure, Emmanuel, Dieu n'élimine pas la souffrance, effectivement. Et là, en fait, Dieu va laisser aller jusqu'au bout cette exécution. Dans un sens, il y a une défaite, comme il y avait eu un semblant de défaite sur la croix, dans cette mort qui va jusqu'au bout, dans ce projet de mort qui va jusqu'au bout. Mais c'est la victoire au bout de cette mort. Et pourquoi? Et c'est ce qu'on voit là. Étienne qui fixe les regards dans le ciel, qui voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et je disais quelque chose qui m'a frappé. Souvent, on voit plutôt Jésus assis à la droite de Dieu pour montrer le terme d'être assis, ça montre la puissance, la victoire, l'autorité, etc. Et là, il est debout comme si, quelque part, il se préparait à accueillir Étienne. Et ça, c'est la façon dont Dieu répond au bien par le mal. Il répond au bien par le mal dans l'éternité, finalement. Et Étienne, vraiment, et c'était à la suite de Jésus, cet exemple-là. Et lui, Étienne, en disant « ne les charge pas de ce péché », il y a aussi la victoire du bien sur le mal, parce qu'il rompt cette haine et cette vengeance. Et il rompt ça en disant « voilà, ne les charge pas de ce péché ». Et lui, il est tourné vers autre chose. Il est tourné vers Jésus. Voilà pourquoi il y a à la fois dans les paroles, dans l'exemple d'Étienne, ces choses qui peuvent nous donner aussi tellement, tellement envie, et puis aussi tellement confiance dans le plan de Dieu, à la fois le plan, tu as parlé de ce grand plan, Eric, hein, voilà, il y a eu ce peuple, et puis il y a eu nous, et puis il y a eu aussi le plan de Dieu pour Étienne, qui l'a accompagné jusqu'au bout, et puis avec son sauveur debout pour l'accueillir.